Michael Ponge, bonjour Michael.
Bonjour Gilles, merci. Il est 8h10 à Cusco. Cusco, premier arrêt de la semaine, on va prendre le pouls des électeurs péruviens qui voteront dimanche pour leur présidentielle et les législatives. On reviendra aussi sur la manifestation de samedi à Port-au-Prince. Les Haïtiennes ont bravé la peur des enlèvements pour dénoncer l'insécurité et les projets politiques du président. Et puis le journal de l'Outre-mer dans une quinzaine de minutes. Avec vous, Serge Massou, on sera en Martinique où, malgré le couvre-feu, les soirées clandestines se multiplient.
Oui, et les fêtards se réunissent au large sur des bateaux. Reportage à suivre.
À tout à l'heure, Serge, et bienvenue à tous. 18 candidats et aucun qui ne se dégage. À 6 jours de la présidentielle au Pérou, les électeurs s'interrogent. Pour qui voter dimanche? Quel bulletin glisser dans l'urne pour les législatives du même jour? 30% d'entre eux avouent ne pas savoir et hésitent même à voter blanc ou nul. Cela en dit long sur le degré de désillusion. Mais au Pérou, le vote est obligatoire. Il va donc bien falloir trancher. Et ce n'est pas évident, même à Cusco, ville historiquement de gauche, où s'est rendu Viloen Munoz Boileau.
Les rues de Cusco, comme d'autres villes du Pérou, sont recouvertes de propagande électorale, tandis que les radios et télé locales diffusent quotidiennement les annonces des candidats. Pourtant, l'enthousiasme préélectoral habituel n'est pas au rendez-vous. Et pour cause, les Péruviens sont centrés sur la gestion de leur quotidien face à la crise économique et sanitaire, à l'image de Gloria, vendeuse ambulante dans le centre historique de Cusco.
Je travaille dans la rue, sans aucune protection sociale, et gagne ma vie au jour le jour. Beaucoup de petits entrepreneurs comme moi se sont endettés pendant la pandémie, mais nous n'avons reçu aucune aide de l'État. Les politiques ne connaissent pas cette réalité et l'ignorent.
Mais lamentablement, tout congressiste qui entre, ou tout président qui entre, ne sait la réalité, les ignore.
Comme elle, ils sont nombreux à reprocher aux candidats de ne pas aborder les thèmes qui préoccupent les Péruviens, à savoir l'économie, la santé ou encore l'éducation. En effet, les attaques personnelles ont largement pris le dessus sur le contenu dans cette campagne. Mais le vote étant obligatoire au Pérou et l'abstention punie d'une amende, Gloria assure qu'elle ira voter le 11 avril, même si elle ne sait pas encore pour quel candidat ni pour quel parti. Installée sur le trottoir d'en face, dans son kiosque à journaux, Juana Caviedes est tout aussi indécise.
Je n'ai pas décidé encore pour qui voter parce qu'il n'y a aucun candidat qui soit digne d'être notre président ou notre député. Ce sont tous des menteurs ou des opportunistes qui pratiquent la corruption à petite ou grande échelle et ils nous volent. C'est pour ça qu'il y a une grande méfiance de la part des citoyens.
Ces dernières années, le Pérou a en effet été secoué par de multiples scandales de corruption, comme l'affaire Odebrecht, du nom d'une entreprise brésilienne qui a reconnu en 2016 avoir versé des pots de vin à des hommes politiques péruviens en échange de contrats publics. Ces révélations ont éclaboussé toute la classe politique péruvienne. Plus récemment, le Vacuna Gate a révélé que des centaines de hauts fonctionnaires, y compris l'ancien président Martin Vizcarra et deux ex-ministres, s'étaient fait vacciner secrètement avant le reste de la population. Ainsi, depuis 3 décennies, tous les anciens chefs d'État péruviens ont fini en prison ou font l'objet d'enquêtes pour corruption, comme 8 actuels candidats à la présidentielle et 10 de candidats au Parlement. Une corruption endémique qui alimente le ras-le-bol des Péruviens et leur désintérêt pour la politique, y compris dans cette région minière qui vote historiquement à gauche et où même les jeunes semblent résignés, comme en témoignent Annie et Leonardo, étudiants en tourisme à Cusco.
On n'attend plus rien. On voudrait que les choses changent. Mais ça paraît impossible, parce que nos politiques ne pensent qu'à leurs propres intérêts, et pas à ceux du pays. J'aimerais pouvoir voter blanc, mais je ne peux pas, parce que ça va profiter au candidat qui sera en tête. Donc je vais voter, mais je ne sais pas encore pour qui.
Je ne sais pas non plus pour qui voter, et mes amis, c'est pareil. Ils vont voter blanc ou nul, certains préfèrent même payer l'amende pour ne pas causer du tort au Pérou, comme ils disent.
Le très grand nombre de candidats, 18 à la présidentielle et 2500 au Parlement, contribuent à brouiller les cartes du jeu électoral habituel et contribuent au fait que les candidats peinent à se détacher. Tout cela explique qu'à Cusco, comme dans le reste du pays, c'est l'indécision qui arrive en tête des sondages à moins d'une semaine des élections. Une indécision qui devrait persister jusqu'au dernier moment, dans un pays où un électeur sur 5 détermine son vote le jour même du scrutin. Wilhelminos Boileau, de retour de Cusco, RFI.
Et pour connaître les enjeux de ce vote au Pérou, je vous invite à réécouter notre rendez-vous de jeudi dernier, le 1er avril en podcast. Le 11 dimanche, une journée électorale bien remplie, puisque les Péruviens aussi, les Équatoriens aussi, vont devoir trancher entre les deux finalistes de leur présidentielle. Deux courants que l'on pourrait ainsi résumer. Le renouveau du coréisme contre l'anticoréisme, du nom de l'ex-président Rafael Correa, exilé, mais dont l'ombre pèse sur l'élection. Son dauphin Andrés Arauz est arrivé en tête du premier tour. Il affronte dimanche un banquier de droite, Guillermo Lasso, qui s'est imposé d'un cheveu sur le candidat indigène du mouvement Pachakutik, Yacoub Pérez, qui en son temps avait pris la tête des manifestations anti-Coréa. Celui-ci a crié à la fraude et appelle au vote nul dimanche. Mais aujourd'hui, eh bien, le mouvement indigène est divisé. Soutenir Arauz, le coréiste, ou bien faire le jeu des conservateurs en s'opposant à lui, Éric Sanson.
Leader du soulèvement d'octobre 2019, Jaime Vargas fait partie des nombreux indigènes proches de la gauche radicale. Il n'avait soutenu que du bout des lèvres le candidat de Pachakutik, Yacoub Pérez, pour qui il n'avait pratiquement pas fait campagne. Samedi, il a définitivement abandonné l'option du vote nul.
Je suis le président du mouvement indigène de l'Équateur. Je suis ici pour soutenir la décision de nos nationalités et vous dire, monsieur Andrés, que votre programme a l'appui absolu du mouvement indigène de l'Équateur.
Absolu pourtant est un bien grand mot. Pachakutik a qualifié la décision de Vargas de trahison et la leader indigène Lourdes Tiban n'a pas oublié les avanies subies pendant le régime de l'ancien président Rafael Correa.
Monsieur Arauz, vous dites que la haine n'est plus à la mode, mais où étiez-vous pendant les 10 ans du régime de Rafael Correa? J'ai souffert dans ma chair. 10 des pires années de corruption, de haine et de persécution. Je n'ai pas de haine en moi, mais j'ai de la mémoire.
L'ancienne candidate à vice-présidente du mouvement indigène, Virna Cedeño, a quant à elle annoncé son intention de voter pour le candidat de droite, Guillermo Lasso. Éric Sanson, Quito, RFI.
Et on y reviendra, bien sûr, d'ici dimanche. À Quito, il est 8h17.
RFI, The World's Voices.
Une heure de plus à Tampa, en Floride.
What we're looking at now is trying to prevent and respond to.
Et celui que vous entendez là, c'est Ron DeSantis, le gouverneur américain de Floride, qui assure que les autorités de son État tentent d'empêcher désormais une inondation catastrophique. Hier, Ron DeSantis a survolé en hélicoptère le réservoir d'eau usé d'une ancienne usine de phosphate qui menace de rompre au sud de Tampa. Bonjour Marie-Normand.
Bonjour.
C'est bien sûr à la une de la presse locale, l'état d'urgence déclaré dans la baie de Tampa.
Oui, et des opérations de pompage sont en cours pour tenter de réduire la quantité d'eau de ce réservoir, explique le Tampa Bay Times. Car s'il cédait, ce réservoir, ce serait actuellement plus d'1 million de mètres cubes d'eau qui se déverserait dans la zone, un mur d'eau de 6 mètres de haut. Des portions d'autoroute ont été fermées et plus de 300 maisons ont reçu l'ordre d'évacuer autour de ce site industriel de Piney Point.
Et ce serait aussi un désastre environnemental, Marie. Hein.
Oui, selon le Washington Post, les bassins reposent sur des piles de phosphogypse, un sous-produit radioactif solide issu de la fabrication d'engrais. Alors, les autorités de Floride affirment que l'eau n'est pas radioactive pour autant, mais l'Agence de protection environnementale soutient que la forte teneur de l'eau en azote pourrait accélérer la prolifération d'algues et donc la mort des poissons. En tout cas, les responsables du comté l'assurent, le lac Manatee, la principale source d'eau potable de la région, n'est pas menacé.
Un autre sujet qui fait la une de la presse américaine aujourd'hui, Marie, un accident de voiture dans le désert de Californie. 13 morts, 13 migrants, le véhicule qui les transportait est entré en collision avec un semi-remorque.
Oui, peut-être le conducteur était-il distrait, écrit le New York Times, ou ne pouvait-il voir le panneau stop dans la lumière de l'aube? Il ne s'est peut-être pas non plus rendu compte du temps qu'il faudrait pour arrêter un véhicule avec 25 personnes à son bord, 25 personnes qui entraient clandestinement aux États-Unis, entassées dans un SUV. L'accident s'est produit près de Holtville, dans l'une des centaines de corridors d'immigration clandestine du pays.
Et à bord de ce véhicule aussi, Marie, 8 Guatémaltèques, mais également 17 Mexicains.
Oui, de plus en plus de migrants mexicains, une tendance soulignée par le New York Times dans cet article. Le journal rappelle qu'après un pire démographique au début des années 2000. L'immigration mexicaine s'était effondrée à mesure que l'économie mexicaine se développait. Entre 2009 et 2014, plus de Mexicains ont même quitté les États-Unis qu'ils n'y sont arrivés. Mais aujourd'hui, et Michael, la dynamique a changé. Avec la crise sanitaire, de plus en plus de Mexicains ont perdu leur emploi et tentent d'aller gagner leur vie aux États-Unis.
RFI à La Paz, 106.9 FM.
C'est aussi à la une de la presse, Marie, les soignants en Bolivie qui entament une grève illimitée à partir d'aujourd'hui en pleine campagne de vaccination contre le Covid.
Oui, grève et blocage de route prévus dès aujourd'hui. Le mouvement a commencé au mois de février. Le personnel soignant demande l'abrogation de la loi d'urgence sanitaire promulguée par le gouvernement. Le texte interdit les manifestations sous peine de sanctions et autorise aussi l'emploi de personnel médical venu de l'étranger, ce qui, selon les grévistes, menace le secteur médical.
Direction aussi le Honduras. El Diario relate les manœuvres de Juan Orlando Hernández, le président du Honduras, pour tenter d'adoucir la condamnation de son frère aux États-Unis il y a quelques jours pour trafic de drogue.
Oui, il a engagé l'influent cabinet d'avocats Arnold & Porter avant le procès. C'était à l'automne 2019, explique le journal américain hispanophone. Un cabinet qui a tenté d'influencer les procureurs, mais aussi une partie de l'administration Trump en les avertissant des conséquences collatérales d'une condamnation. Conséquences sur les relations bilatérales et conséquences aussi pour les bases militaires américaines au Honduras. Une stratégie qui n'a pas fonctionné puisque, vous le disiez, Tony Hernandez a été condamné à la prison à perpétuité la semaine dernière.
Enfin Marie, tout de même soyons un peu dans le ton et dans le calendrier. Un mot de Pâques, des célébrations évidemment spéciales hein, cette année comme l'an dernier.
Oui, un autre Pâques pandémique, titre le Chicago Tribune, avec en une maman déguisée en lapin rose, masque sur le nez et le menton. Ailleurs, dans le Washington Post, ce sont des pasteurs qui célèbrent des messes en pleine rue. Le Los Angeles Times consacre un article aux églises noires de Californie qui, pour certaines, ont célébré de petites messes dans des chapelles ou bien dans des parkings. Le journal interroge Dennis, fidèle fervente d'une église méthodiste qui a passé son deuxième Pâques sur Zoom. Parfois, dit-elle, elle en a marre de ces petits carrés sur l'écran, mais elle ajoute que Dieu n'a pas besoin des quatre murs d'une église pour faire connaître sa présence.
Les célébrations pascales. Merci Marie Normand. Ces célébrations qui n'ont pas empêché toutefois les manifestations ce week-end en Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Alors que ce sont généralement des hommes qui descendent dans les rues, souvent jeunes, ce coup-ci, les femmes ont crié leur ras-le-bol samedi 3 avril à Port-au-Prince. La date, vous allez l'entendre, a son importance. Ras-le-bol contre les enlèvements et les menaces dont elles sont les premières victimes. Ras-le-bol aussi contre le projet de nouvelle constitution du président Moïse. Amélie Baron était à leur côté.
Nous voulons de la sécurité, à bas l'impunité et à bas les violeurs. Les femmes haïtiennes ont fait entendre leur voix samedi dans la capitale car elles sont à bout. Pascale Solage, militante de l'organisation Neges Marron, rappelle que les femmes sont les plus grandes victimes des violences des gangs.
Aujourd'hui, les femmes, partout dans le pays, mais particulièrement dans les zones vulnérables, particulièrement dans les quartiers populaires, sont victimes au jour le jour, dans leur vie, au quotidien, dans leur corps et de toutes les manières possibles. Même si les femmes sont impactées par tout ce qui se passe dans la société, il y a quand même une spécificité par rapport aux formes de violence qu'elles peuvent subir dans ces mêmes situations. Et effectivement, les cas de kidnapping, déjà de janvier à mars, on a eu plus d'une centaine de cas de kidnapping. Les femmes qui ont été kidnappées sont violées, elles sont agressées sexuellement. Donc aujourd'hui, il faut donc mettre au centre du débat, au-delà de la question du kidnapping, comment les femmes, elles-mêmes, elles sont impactées par la situation.
Le 3 avril a été choisi pour être la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes, car le 3 avril 1986, deux mois après la chute de Jean-Claude Duvalier, 30 000 femmes avaient marché à Port-au-Prince pour réclamer leur inclusion dans la vie politique et sociale post-dictature. Danielle Magloire était dans ce cortège historique et aujourd'hui elle continue de militer.
On ne peut pas laisser le champ libre, permettre que la terreur s'installe, vraiment parce que la dictature de Duvalier est quand même pas très loin, même si ça fait 35 ans, mais comment ça a marqué le pays, comment ça a marqué les gens, et on voit bien que le pouvoir actuel reprend les mêmes recettes. Quand on regarde les contenus des décrets qu'il adopte, franchement, ils sont purement du valérisme. Donc, on se doit vraiment de se mobiliser pour que ça ne nous arrive plus. Il est important de rappeler ce slogan-là. Ce que nous disions en 86, c'est que la démocratie ne peut pas se construire sans les femmes ou à leur détriment. Les cadres doivent être redistribués pour plus d'équité, pour plus de justice et que les femmes soient reconnues comme des citoyennes véritablement à part entière.
Contre les violences perpétrées sur les femmes, la manifestation s'est donc aussi voulue contre le pouvoir en place. Gaëlle Bien-Aimé déplore l'inaction des autorités face aux gangs.
Franchement, nous pas capables encore.
Franchement, on n'en peut plus. Il y a des massacres partout, des kidnappings, et on sent que le pouvoir n'a aucune volonté de répondre à ça. Je n'étais pas encore née quand les femmes ont marché en 86 pour dire qu'il fallait que les cartes soient redistribuées en les prenant en compte. C'est dans la Constitution de 87, il est clairement dit « égalité entre femmes et hommes ». Aujourd'hui, ils nous parlent de parité dans la nouvelle Constitution. Ils ne peuvent pas nous rouler dans la farine. On n'a pas besoin de cette Constitution qui est un cadeau empoisonné où ils saupoudrent 2-3 mesures cosmétiques alors que tout le pouvoir sera concentré entre les mains de l'exécutif avec un président qui aura l'immunité totale pendant et après son mandat. Ça, c'est pas possible.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et l'Haïti, on prend la direction de la Martinique.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec vous, Serge Massot. Alors qu'en métropole, on parle de dîners clandestins dans les restaurants parisiens, en Martinique, Serge, ce sont des fêtes clandestines qui se déroulent sur l'eau.
Oui, en cette période de restrictions sanitaires, les soirées privées plus ou moins secrètes se multiplient en Martinique, côté terre mais aussi côté mer. Aux Trois-Îlets ou aux Anses d'Arlée, par exemple, de nombreux bateaux s'accrochent les uns aux autres pour faire la fête. Le reportage de Xavier Chevalier.
Sur les réseaux sociaux, les images des soirées clandestines se multiplient. Pour les participants, c'est le couvre-feu de trop. Cette fois, ils ne veulent plus écouter et comptent bien profiter de leur vie sociale.
Parce que c'est fun et parce que les interdictions n'ont pas vraiment de sens. Donc on continue à s'amuser, tu vois, parce que bah, il faut bien vivre, quoi.
Tout simplement, on est entre amis, il fait beau, il fait chaud, c'est la fête. Franchement, on se régale, quoi.
Mais tout ce chômage à cause de cette crise, du coup, on essaie de profiter comme on peut.
Pour l'heure, un couvre-feu est instauré de 19h à 5h du matin, au moins jusqu'au 18 avril. Les rassemblements de plus de 6 personnes sont également interdit, mais les fêtards n'ont pas peur de la maladie.
En tant que jeune, pas tellement, mais en tant que jeune qui ait des parents et qui risque de retourner chez eux, alors oui.
Étant donné que je l'ai déjà eu, que j'ai eu aucun symptôme, non, ça me fait pas peur, non. Je me suis fait tester il y a 5 jours, j'étais négatif. Je pense que ça va passer. Hein.
De plus en plus de personnes via les réseaux sociaux sont invitées à ces soirées. Les forces de l'ordre sont mobilisées, mais pour l'heure, elles semblent complètement impuissantes.
Une nouvelle plainte dans le dossier judiciaire du chlordécone. Cette fois, c'est une association martiniquaise qui entend poursuivre les ministres qui ont autorisé l'utilisation de ce pesticide aux Antilles après son interdiction officielle. L'objectif, c'est d'éviter la prescription du dossier. Christophe Legvac est l'avocat parisien de l'association guadeloupéenne Vivre. Il fait le point sur le dossier.
Nous avons jusqu'au mois de juillet pour arriver à convaincre les juges d'instruction que la prescription n'est pas acquise. Et j'ai d'autres éléments dans le dossier que je réserve aux juges d'instruction qui vont me permettre de démontrer qu'en effet, il n'y a pas de prescription acquise. À partir de là, on pourra continuer l'enquête et on pourra vérifier enfin qui sont les véritables responsables et qui sont à l'origine de tous les méfaits du chlordécone. Parce que le vrai enjeu, c'est ça, c'est de savoir qui sont les responsables, les coupables, et de les traduire une bonne fois pour toutes devant la justice, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, comme des sociétés, qui se sont enrichies pendant des années avec l'usage et la distribution de ce produit, et qui aujourd'hui font semblant de découvrir que c'était dangereux.
Des propos recueillis par Olivier Lancien. Air Belgium reporte son retour aux Antilles. La compagnie aérienne prévoyait de reprendre ses rotations le 20 avril, mais elle ne reviendra finalement pas avant juillet, au plus tôt, en cause les restrictions de voyage imposées par la France et la Belgique. Et puis ce sprint final mal maîtrisé dimanche lors de l'arrivée du trophée cycliste de Pâques à Rémire-Montjoly en Guyane. À l'arrivée, un cycliste a fait une embardée et a terminé sa course sous la tente officielle, bilan 2 blessés légers. C'est la fin de ce journal. Bonne journée.
Merci beaucoup Serge Massot, à vous et aux équipes de La Première.
RFI.
Et il est quasiment 15h30 ici à Paris. C'était Claude Battista qui était à la réalisation aujourd'hui. Notre rendez-vous retrouvé comme tous les autres sur RFI.fr, nos podcasts et aussi via les réseaux sociaux avec l'arrobase RFI Amérique sur Twitter et sur la page Le Journal d'Haïti et des Amériques sur Facebook. Très bonne journée à tous et à demain sur RFI.
Autour de la question.
Caroline Lachowski s'interroge.